Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Le besoin de s'émerveiller aujourd'hui par la lecture, il est absolument nécessaire parce que c'est le processus créatif que permet la littérature. On ne le retrouve pas au cinéma parce que les images montrent quelque chose que la littérature ne fait que suggérer. Et je pense que la suggestion, parfois, elle est très importante parce que on a besoin d'imaginer des personnages tels qu'on veut les imaginer ou tels que ça nous vient quand on les lit, et pas toujours d'avoir un visage qui vient se coller à un personnage. Et je pense aussi que, enfin, je peux même un peu admettre que la littérature, ça a toujours été le lieu des échecs, où on raconte ses échecs, où on raconte ses craintes, ses angoisses, ses erreurs. Et je crois que c'est très important pour nous de lire les erreurs des autres. D'une part pour relativiser par rapport au nôtre, et puis d'autre part pour l'aspect plus pratique de se dire cette erreur-là a été commise, je viens de la lire, donc j'essaierai de ne pas la reproduire. Là, je me suis un peu replongé dans Romain Gary, et c'est un auteur typique des erreurs et des échecs et des regrets. Et je pense que c'est très important de prendre conscience des regrets des autres, parce que ça permet aussi d'identifier les nôtres.
Dans son discours à la jeunesse en 1903, Jean Jaurès a dit « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel ». C'est ce que m'inspirent les deux hommes que vous allez entendre durant cet épisode. Je me refuse de dire qu'ils sont de jeunes hommes, même s'ils ont 21 ans, parce que ça impliquerait de minorer leur talent, leur intelligence, leur maturité et l'impact de leur entreprise sur nos cerveaux, voire même de nos habitudes. Ils sont les fondateurs du compte Instagram Diversification Littéraire. Ils postent des citations d'auteurs plus ou moins connus, des photos, des peintures, un peu de vidéos. Et en fait, ils rendent accessible ainsi la culture, tout simplement. Ils donnent envie de lire, et donc de grandir, quel que soit notre âge. Même si vous n'avez pas Instagram, et même si vous n'aimez pas la littérature, vous allez découvrir, je le pense sincèrement, de génies. À leur actif 20 000 abonnés, et au-delà de ça, je pense qu'ils agissent pour le bien commun. J'ai rarement entendu un discours aussi intelligent, et durant notre discussion, nous avons parlé de ce que c'est d'avoir 20 ans d'aujourd'hui, du droit à la culture, de littérature bien entendu, du monde de l'édition à l'époque où le marketing prend souvent le pas sur l'art, de cinéma, de féminisme, de Romain Gary, et de leurs projets de podcast et de médias. Cet épisode a un réel impact positif, je dirais presque qu'il est d'utilité publique. Donc je vous invite à le partager le plus largement possible pour que leurs paroles rayonnent. Alors maintenant, j'arrête de parler, et je laisse la parole à Louis Aéry et Grégoire Vazelaire, les deux géniaux fondateurs de Diversification Littéraire.
Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast, je suis ravie de vous recevoir. J'ai énormément d'admiration pour ce que vous faites. Quand je vous ai remarqué la première fois, je me suis dit, ces deux-là, ils doivent être clairement très brillants parce que votre page Instagram qui s'appelle Diversification Littéraire me plaît beaucoup. Donc je vais vous demander si ça vous dérange pas de vous présenter autant perso que pro, quoi. Vous êtes tous les deux devant moi, donc on va peut-être alterner.
Voilà, donc moi c'est Louis, j'ai 21 ans. Avec Grégoire, on s'est rencontrés en prépa littéraire il y a maintenant 4 ans.
Ouais.
Et donc l'idée de diversification, on l'a eu très vite dans l'année. C'était à l'origine pas du tout. Enfin, l'idée n'était pas du tout de faire ce que l'on fait maintenant, c'est-à-dire d'essayer de lancer un média culturel ouvert à tous et surtout aux plus jeunes.
Ouais.
C'était avant tout de stocker différentes citations qu'on recueillait chacun de notre côté. Et on lisait un peu les mêmes livres, le même genre de littérature qui n'était pas forcément celui qu'on devait étudier en fait au début. Donc c'est aussi comme ça qu'on s'est trouvé. Et du coup, on a créé tout d'abord une page Facebook.
Ouais.
Et très vite, en fait, ça a beaucoup intéressé les gens. C'était uniquement des citations littéraires. Et voilà, et donc on a eu en quelques mois une dizaine de milliers de personnes qui nous suivaient.
Ouais.
Et on a décidé de passer à Instagram aussi pour proposer des extraits de films. Et puis pour ouvrir voilà, plus généralement à différentes sortes d'art.
Donc moi c'est Grégoire,
ouais.
J'ai 21 ans aussi. Oui, donc du coup personnellement, enfin pour me présenter, du coup je fais du théâtre.
Ouais.
Je suis au conservatoire à Paris. Et oui, l'idée de diversification, en fait, c'était juste de... Au départ, ça avait aucune vocation. C'était juste pour qu'on stocke, pour s'entraider un petit peu. En fait, ouais, au départ, ça avait presque la forme d'un réseau un peu intranet dans la prépa dans laquelle on était, où on voulait tous partager des citations, puisque pour les dissertations qu'on faisait, on avait tous besoin de citations à reprendre, à noter et à intégrer dans la dissertation en question. Mm-hmm. Et donc en fait ça avait que cette valeur là et quand on a compris l'influence et l'impact que ça pouvait avoir sur des personnes qu'on connaissait pas, qui nous connaissaient pas, on s'est dit qu'il fallait pousser un peu le truc, simplement un peu innocemment, en se disant bon, jusqu'où on peut aller et jusqu'où ça peut intéresser des personnes de lire des citations, des extraits. Ça avait plusieurs avantages pour nous, dans le sens où d'un côté on pouvait parler de ce qu'on aimait déjà, et on pouvait du coup rencontrer des personnes qui aimaient ce qu'on aimait aussi mais qui en savaient plus. Ça a toujours été une de nos premières règles à Louis et à moi, c'était d'admettre qu'on connaissait très peu de choses et qu'il fallait qu'on en découvre encore plus. Et qu'en découvrant, en tout cas en montrant une partie de ce qu'on aimait à des personnes qu'on connaissait pas, on était probablement 10 fois ou 100 fois plus gagnant en découvrant ensuite des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices. On s'est rendu compte que c'était il y avait l'effet un peu boule de neige, hyper positif par rapport à ça, parce que tous les jours, là, on a commencé une sorte de nouvelle rubrique où les personnes qui nous suivent nous envoient leur travail, donc leurs tableaux, leurs films, les textes qu'ils écrivent, et on découvre en fait un tas de nouveaux horizons grâce à ça.
Ouais.
Donc il y a quelque chose de très positif là-dedans, et en fait, on essaie au maximum de rendre compte de tout ce que ça peut impliquer et tout ce que ça apporte. On a rencontré Justine qui fait son compte cinéma, qui une fois par semaine fait une micro-critique qu'on
publie. C'est quoi comme compte ?
C'est Un jour un film.
Ouais.
Sur Instagram aussi, qui a un site internet et tout ça. Et en fait, oui, ça fait depuis plusieurs mois qu'on collabore et ça nous permet même du coup de discuter avec elle, de la rencontrer, de savoir un petit peu ce qu'elle fait, de découvrir aussi avec son compte des nouveaux films. Donc il y a de nombreuses retombées positives auxquelles on s'attendait pas, et du coup maintenant on essaie un peu l'objectif qu'on s'est donné, Louis et moi, maintenant, c'est d'essayer de provoquer un peu la chance encore davantage en allant chercher les opportunités plutôt qu'en espérant qu'elles arrivent. Par exemple, du coup il s'est posé la question, et il se pose la question de faire des podcasts, du coup, Louis et moi aussi, parce que on a envie un petit peu de se frotter différemment, on va dire, à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eu la première vague qui était les citations, les auteurs qu'on connaît, qu'on aime. On va vous proposer des extraits ici et là. La deuxième vague avec le rajout du cinéma, du théâtre, des arts graphiques. Et maintenant, on aimerait bien franchir un nouveau cap, ou en tout cas proposer, puisque c'est même pas pour nous. Enfin, c'est même pas tant pour nous que pour ce que ça offre. C'est pas quelque chose, c'est pas un objectif personnel, simplement c'est des opportunités de se dire bon, on a pu présenter un petit peu ce qu'on aimait, maintenant on aimerait bien faire ce qu'on aime et discuter des choses qu'on aime et voir tout ce que ça peut ramener encore davantage comme découverte, puisque c'est toujours l'enjeu en fait, juste de rencontrer des auteurs, des autrices, de découvrir ce qu'ils écrivent, des nouveaux films.
Et à ce titre, on s'est très vite rendu compte que un simple compte Instagram où on partage des citations, les citations qu'on aime, etc., n'était pas suffisant.
C'était trop petit.
Et du coup, on a voulu organiser des rencontres, en fait, se confronter, en fait, aux gens qui nous suivent et aux gens que ça intéresse vraiment. On en a fait deux à 7h. Ça nous a permis aussi, dans la deuxième, d'inviter des musiciens, des auteurs.
C'était quand?
C'était le 22 septembre, c'était à la Javel, dans le 15e arrondissement. Et a priori, on va continuer, de faire ça, et puis on va essayer aussi de faire des projections de films. Choisi même par nos abonnés. Donc on va chercher des lieux pour faire ça.
On peut revenir un tout petit peu sur vos parcours perso, d'où vous venez, ce que vous faites comme études, et surtout d'où vous vient cette passion pour la culture au sens large, mais au début quand même la littérature.
Moi je viens de Paris. Et du coup après un bac scientifique, étonnamment, en fait j'ai fait donc 3 ans de prépa littéraire. Ça m'a, enfin, la prépa littéraire, même si j'étais pas particulièrement à l'aise,
Hippocane,
Cagne et Cube, du coup, j'étais pas particulièrement à l'aise, surtout au début. Mais en réalité, c'est vraiment une opportunité au-delà, voilà, des concours que les gens préparent. Moi, c'était pas vraiment mon cas d'avoir des plages immenses, en fait, pour lire, aller voir des expos, voir des films. En fait, ces trois années, je parle même pas des cours, mais juste de formation et où qui permettent de se recentrer sur ce qu'on aime et tout. Et le goût de la littérature, de l'art, de la culture, en fait, il s'est beaucoup développé pendant ces trois ans. Avant, je lisais beaucoup, en fait, mais je savais pas que je voulais faire ça de ma vie. Maintenant, je m'oriente vers le journalisme.
Ouais.
Je suis en train, voilà,
de préparer. Tu vas être en stage au 1, c'est ça?
Au 1 hebdo, voilà, ouais. Exactement. Et du coup, bon, c'est complémentaire.
Mais bien sûr.
Parce que voilà, le journalisme.
Puis c'est un très bel hebdo. Enfin, moi, j'adore ce journal.
Voilà, en plus. Et donc, voilà, dans le journalisme, il y a aussi le journalisme d'idées. Culturel, etc. Ça serait bien de concilier les deux, j'y pense beaucoup. Voilà, pour moi.
Toi, Greg?
Alors moi, du coup, je suis pas originaire de Paris, je suis né à Bordeaux. J'ai un peu voyagé avant d'arriver en région parisienne. Moi, la littérature, tout ça, ça arrivait un petit peu plus vite, puisque j'avais pas, je me suis occupé, on va dire, quand j'étais au collège, autrement qu'en jouant avec des amis, etc. Mais du coup, je lisais beaucoup. Donc, on va dire que j'avais très vite, du coup, le goût des livres, juste de la lecture. Donc, au départ, c'était vraiment les petits textes, c'est juste le plaisir de lire, en fait. Et puis, du coup, il y a le moment qui s'est présenté où il a fallu que je me confronte un petit peu à la bibliothèque de ma mère. Et c'est arrivé en troisième, du coup, où j'ai vraiment commencé à découvrir les grands auteurs. Donc c'était principalement de la poésie avec les Prévert et compagnie, mais où du coup j'essayais de m'y attarder un peu plus que les cours au collège, qui sont quand même assez restreints et qui survolent. Et du coup, voilà, je commençais d'abord par la poésie, que je trouvais très simple à lire parce que c'était plus court et donc ça laissait plus de temps pour y réfléchir. Et puis après, au lycée, ça a continué puisque je me suis dirigé vers une section littéraire. Donc là, j'avais plus le choix. Il fallait que je confirme les attentes que j'avais de la littérature et il fallait que je trouve là-dedans ce que je cherchais. À côté de ça, je commençais à m'orienter de plus en plus vers l'histoire de l'art, en fait, au départ.
Okay.
Et donc, quand j'étais en terminale, pour me mettre un petit peu dans le bain du bac, j'ai passé les concours de l'école du Louvre. Un peu par hasard, et il se trouve que j'étais reçu à l'école du Louvre, et donc une double question, enfin la question qui se posait, c'était de savoir ce que je faisais, puisque j'avais été accepté à la Canal en prépa, et donc c'était de me décider, est-ce que je m'orientais tout de suite vers l'histoire de l'art, sachant que à l'école du Louvre, il y avait un souci d'encadrement, parce que je sais que j'avais tendance un peu à me perdre, là où la prépa me proposait quelque chose d'encore très global, et où du coup je pouvais continuer à fouiller dans ce qui me plaisait vraiment. Et du coup, à l'époque du lycée, je me posais aussi la question du théâtre. J'étais dans la section théâtre du lycée, bon, qui n'était pas fameuse, mais ça me plaisait quand même beaucoup d'être sur scène, de travailler. On avait monté Shakespeare quand j'étais en terminale. Et donc, j'ai décidé du coup d'aller en prépa, finalement. Il y avait une option théâtre qui me plaisait beaucoup, et en fait, qui était la seule raison, d'ailleurs, qui m'a fait tenir pendant un an, parce que j'avais vraiment beaucoup de mal, contrairement à Louis qui a tenu trois ans. Moi, ça a été un an, très dur, surtout les premiers mois qui étaient vraiment difficiles. Après, une fois qu'on s'est rencontré, Louis et puis tout le groupe d'amis qu'on a réussi à faire.
Vous êtes rencontrés en prépa, n'est-ce pas?
Ouais. Ça s'est fait très rapidement, fin de mois de septembre. On commençait un peu à discuter, à s'apprécier, et puis les choses se sont mises en place. Diversification, ça a été créé le 1er mars 2017, ouais, c'est ça.
Ok.
Et à partir de là, on s'est plus vraiment lâché ni rien. Mais du coup, moi, la question, une fois que j'ai quitté la prépa, c'était qu'est-ce que je vais faire, du coup, parce que je voulais faire que du théâtre. J'avais plus rien, plus d'intérêt pour grand-chose d'autre. J'ai passé des conservatoires d'arrondissement, les auditions, et j'ai été reçu dans le 17e, où je suis toujours. Il y avait aussi la fac à côté, mais ça, c'est pareil. Je crois que j'ai un souci avec les formats scolaires, quoi.
Et donc la fac. Je crois que t'es pas le seul, hein.
Ouais, la fac, j'ai lâché aussi très rapidement. Pour me concentrer du coup sur ça. Et donc voilà, maintenant du coup, c'est l'enjeu, c'est de mêler un petit peu diversification et puis les pratiques extérieures. Donc pour Louis, c'est vrai que c'est quelque chose qui est presque inévitable, dans le sens où on se dirige vers un média culturel, donc ça rejoint directement ce que Louis fait. Et moi, la question, elle peut être un peu plus floue, mais en fait, dans ma tête, c'est assez dessiné. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport au podcast, justement, j'aimerais bien inclure une rubrique dans les podcasts qu'on fait, en tout cas faire une autre catégorie de podcasts qui soit des podcasts uniquement de lecture de texte, puisque bah, j'en apprends beaucoup, beaucoup, donc j'aimerais bien en lire de temps en temps pour proposer ça, parce que c'est vrai que... il y avait beaucoup de poèmes que j'ai découverts aussi sur YouTube qui sont lus, bah, je pense par exemple à Desnos qui était lu par Denis Lavant, ou Trintignant qui lisait Vian. Et donc, bon, j'ai pas la prétention de lire aussi bien qu'eux, mais en tout cas j'aimerais bien j'aimerais bien confronter un peu à ce type d'exercice là, quoi.
Ok. Vous voulez qu'on reparle un peu de votre média que vous avez en tête ou pas? Parce que j'ai vu passer un manifeste fabuleux et je crois beaucoup à ce projet. En tout cas, on en a déjà parlé ensemble et j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu. Même si c'est pas pour demain, dites ce que vous pouvez dire, bien entendu.
Effectivement, du coup, on a publié un manifeste qu'on a rédigé Grégoire et moi en vidéo. Il faudra aller le voir. On va pas le. Je peux le résumer, mais je peux pas le restituer tel quel.
C'est très beau d'ailleurs. Moi, j'avais beaucoup aimé.
Et c'est gentil, merci. Et donc, en fait, le but de ce média, de ce futur média, c'est quand même la réelle démocratisation de la culture, l'accès à toutes ces choses à des gens qui en fait que ça intéresse beaucoup, mais qui n'ont pas vraiment le droit de s'y intéresser en fait parce que dans leur entourage, leur milieu, on n'en parle pas. Y a une jeune fille qui était venue nous voir au premier événement qu'on a organisé qui a dit mais c'est vraiment génial parce que moi je suis dans un lycée où mes amis comprennent pas ces choses-là et c'est vraiment un lieu où je peux me rendre et où je peux parler des choses qui m'intéressent réellement. Donc ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Et diversification à cette prétention-là que d'être un relais pour ces gens-là et de faire venir ces gens-là, la communauté ainsi peut se confronter et pour le média plus précisément, pour le podcast, pour les formats, dans un premier temps, évidemment, on pense à, du coup, comme le disait Grégoire, à des lectures de textes, des interviews d'auteurs et d'autrices, plus longues, donc, sur un thème en particulier et très précis, pas sur leur œuvre globale, mais bien sûr à travers leur œuvre. Et quelque chose d'un peu plus didactique qu'on voulait pas faire au début. On n'a jamais voulu donner notre avis. On voulait être un relais. On n'a jamais vraiment dit ce qu'on pensait d'une œuvre. Enfin, si on disait qu'elle était très bien, qu'il fallait la lire, mais on s'est jamais permis de faire une critique littéraire et théorique de ces choses-là. Si on le fait, ça sera sans prétention aucune, ça sera simplement pour juste donner des clés à la lecture, pour orienter vers certains livres, et puis pour en parler ensuite. C'est vraiment vers ça que ça se dirige dans un premier temps.
Ok, mais c'est important ce que vous dites, parce que c'est le combat de départ, en fait. C'est de dire, on en avait déjà parlé ensemble, mais qu'est-ce que vous... Enfin, à vos âges, parce que vous avez donc 21 ans, ça ne me rajeunit pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre point de vue sur le monde de la littérature, le monde culturel au sens global, à savoir, est-ce qu'il est accessible, disponible, comme il l'était avant, et quel regard vous portez aujourd'hui sur ce milieu, en fait, tout simplement.
Oui, effectivement, ce que j'ai pas dit là à l'instant, c'est que diversification s'est créée à partir d'un manque.
C'est ça.
Et effectivement... les maisons d'édition, mais pas que, faut pas que les incriminer. Il y a aussi les médias qui relaient absolument plus ces choses-là. Pareil dans le service public, plus aucune émission très littéraire. À part la grande librairie, et je pense que c'est pas suffisant. Donc effectivement, ça vient d'un manque. On considère que la littérature n'est plus promue par ces relais-là, et elle devrait l'être, en fait. Et c'est-à-dire que ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est essentiellement des lectures, marketing, c'est-à-dire ce qui va se vendre. C'est ce que les gens lisent, et en fait ce qui me dérange, parce que autant chacun lit ce qu'il veut et on n'a rien à en dire, Mais ce qui me dérange, c'est que beaucoup de maisons d'édition, et notamment les plus grosses, font en quelque sorte le pari que ce qui va intéresser les gens et ce que l'on va mettre en avant, c'est pas la littérature. C'est ce qu'a écrit je ne sais qui, quand, et dont
c'est
en fait...
C'est que ça colle à l'actualité dont, et ça colle plus forcément à la littérature.
Absolument, et dont en fait tout le monde se fout en quelque sorte. Mais les gens...
On leur met sous le nez, donc ils vont
exactement.
Y aller.
Exactement, on rentre dans une librairie, on voit les dernières sorties, c'est ce qu'on achète en premier, plutôt que de se mettre à plat ventre derrière les rayons pour prendre la poésie.
On peut remarquer aussi sur le traitement médiatique et même sur la manière dont les textes sont ou ne sont pas diffusés que je pense par exemple tu nous as posé des questions par rapport à le milieu intellectuel plus ancien et je pense par exemple dans les années 50-60 à l'époque de Bataille notamment on était davantage sur une littérature de scandale où il y avait une volonté d'écrire des choses qui soit immédiatement discutable, débattable, où il n'était pas question que ce soit un journal qui énumère des réalités, des vérités et des crimes, mais où c'était simplement une littérature, la littérature du mal, comme il l'a écrit, et qu'on se retrouve aujourd'hui davantage dans une sorte de scandale de la littérature, où par exemple, tout à l'heure j'étais sur différents sites d'information, et dans le rayon, dans l'onglet, pardon, ouais. Culture, en fait, il y avait que les scandales récents en littérature, au cinéma. Et il y a quelque chose d'un peu désolant là-dedans parce que je crois qu'il doit y avoir toujours un scandale dans la littérature, dans l'art et dans l'art en général. Mais un scandale, pas au sens social, pas au sens de la justice ou du crime, mais un scandale au sens où il faut que ça nous anime tous en permanence, qu'il y ait toujours quelque chose dont on ait envie de discuter, dont il faille discuter et on retrouve ça assez peu. Par exemple, sur la manière dont les librairies indépendantes essaient de survivre, elles sont complètement happées par les grandes distributions. Et dans les grandes distributions, il n'y a pas de scandale. Enfin, c'est scandalisant de voir les têtes de rayon, mais il n'y a pas de... Il n'y a plus le débat de l'intelligence ou le débat de la tentative littéraire ou artistique. Ça existe encore au cinéma parce que le cinéma, c'est un moyen de diffusion plus global, justement. Mais la littérature, elle s'essouffle à ce niveau-là aussi, que les auteurs n'osent plus ou ne sont plus diffusés quand ils osent. Et que on les retrouve seulement dans une toute petite colonne, dans des petits magazines que personne ne lit vraiment.
Mais vous êtes très entouré parce que vous avez une communauté, je sais plus, mais de plusieurs dizaines de milliers de gens qui vous suivent, non, n'est-ce pas? Oui. Alors déjà, quel âge ils ont environ? Enfin, est-ce que ça vous le savez?
Oui, c'est une communauté jeune globalement.
Relativement jeune.
Ouais, c'est entre 15 et 25.
Voilà, entre 15 et 25 ans. Et du coup, ma question c'est, est-ce que ces gens, selon vous, ils lisent beaucoup ou pas?
Je pense qu'en tout cas, ils sont à l'âge où ces questions-là, elles se posent justement. Puisque comme Louis et moi on l'a dit, on n'est pas des exemples en soi, mais moi ça m'est arrivé quand j'étais au collège, Louis fin du lycée. Je pense que c'est à cet âge-là que les questions se posent parce que le collège, le lycée, même si il y a énormément de manques dans l'éducation, permettent en tout cas un début d'accès à la littérature, à certains textes importants. Et donc je pense que en fait l'idée c'est de c'est pas d'être un substitut à l'école, mais c'est d'être une sorte de complément, en fait, et de dire il y a ce que vous étudiez à l'école qui vous intéresse probablement pas, mais dans tel ou tel texte, il y a cet extrait-là qui nous a marqué et dont on espère qu'il va vous marquer, pour qu'ensuite vous franchissiez le pas et que vous essayiez de lire le texte en entier. En fait, c'est juste essayer de provoquer l'étincelle, comme on dit justement dans le manifeste. Il y a cet enjeu-là aussi de se dire que ça part toujours d'une petite étincelle qu'on croit inoffensive, et puis en fait ça peut se propager très rapidement, et c'est ce qu'on aimerait créer.
Ben c'est ce que vous faites. Enfin, en tout cas, moi, j'avais échangé avec Jacques Attali, je crois, dans son entretien qu'il a accepté de faire dans mon podcast. Et vous avez un mérite incroyable, c'est d'expliquer les bienfaits humains de la lecture. Je suis très attristée de constater qu'il y a de moins en moins de gens, je pense, qui ont compris l'intérêt de la lecture. C'est-à-dire, en fait, et d'ailleurs, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, mais pourquoi on lit un livre? Et pourquoi et à quoi ça sert de lire aujourd'hui, selon vous? La question est complètement basique, hein, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que s'il y a des jeunes gens qui nous écoutent, je pense que c'est important de rappeler les bienfaits de la lecture, quoi.
Je pense qu'effectivement, il y a eu un déplacement du sens de ce que c'est que lire. Et maintenant, la lecture, elle est avant tout un moyen d'être cultivé et de faire un bon pitch à un dîner voilà, de parler, de bien paraître. Et c'est pour ça qu'on a des figures en fait de pseudo dandy qui apparaissent, qui sont très élégantes et qui fascinent un peu. Je pense par exemple à Beck BD. Donc c'est, ça fait bien en fait de lire tel ou tel livre. Et oui, tu as lu le dernier Goncourt. Bon, très bien. La lecture, je pense que avant tout, c'est un moyen de comprendre sa place en fait dans le monde. Et de s'échapper, de s'identifier en fait à des personnages et en fait sans le vouloir de progresser et par ailleurs quelqu'un qui lit énormément peut être un connard, c'est pas la question,
oui, bien
mais
sûr.
Mais ça se voit en fait quand quelqu'un lit et en fait On prend au sérieux quelqu'un qui lit beaucoup, quoi qu'il dise. C'est pas forcément bien, du coup, mais bon. Et en fait, ça, la lecture apporte beaucoup, permet de mieux s'exprimer. C'est à la fois, du coup, pratique, même si ça m'émoustille pas de dire ça. Mais c'est avant tout aussi, quand même, un moment où on se retrouve seul, où on peut penser et on peut vraiment réfléchir. Et en fait, c'est de moins en moins possible aujourd'hui.
Notre cerveau est sans cesse sollicité. Exactement. Donc, on prend de moins en moins de temps seul face à un bouquin où on a en plus la nécessité de mettre son cerveau, de focusser son cerveau uniquement sur une seule chose, quoi.
Exactement. Donc voilà, je pense que les efforts de lecture doivent se diriger dans ce sens-là plutôt que dans l'autre.
Toi, Greg ?
Oui, puis il y a aussi, pour moi, une des choses les plus importantes là-dedans, c'est l'émerveillement. Ouais. C'est-à-dire comment on va se retrouver face à un texte qui semble immense et comment nous, on se retrouve tout petit. On a eu beaucoup de discussions comme ça avec des amis communs, Louis et moi, par rapport à. On analysait un peu plus ou moins les formes de littérature, en tout cas à travers les siècles, et comment on se retrouvait aujourd'hui au XXIe siècle avec une littérature, quand on fouille un peu et qu'on trouve les auteurs d'aujourd'hui. Une littérature qui a des failles et qui les admet. Et on réfléchissait un petit peu pour essayer de comprendre à quel moment la rupture avait pu se faire, puisque quand on lit des Stendhal ou des Victor Hugo, on a l'impression de se retrouver face à des textes les textes en eux-mêmes semblent déjà sans faille, mais en plus avec tout le fantasme autour de ces textes-là, de ces auteurs, il y a quelque chose. Enfin, on imagine Chateaubriand, le voyageur au-dessus de la mer de nuages. On a cette image-là de quelqu'un de très solitaire, les cheveux dans les vents. Enfin, tout ça, cette image un peu romantique. Et je pense que le besoin de s'émerveiller aujourd'hui par la lecture, il est absolument nécessaire parce que c'est le processus créatif. Que permet la littérature, on le retrouve pas au cinéma parce que les images montrent quelque chose que la littérature ne fait que suggérer. Et je pense que la suggestion parfois elle est très importante parce que on a besoin d'imaginer des personnages tels qu'on veut les imaginer ou tels que ça nous vient quand on les lit, et pas toujours d'avoir un visage qui vient se coller à un personnage. Et je pense aussi que, enfin, je peux même un peu admettre que la littérature, ça a toujours été le lieu des échecs, où on raconte ses échecs, où on raconte ses craintes, ses angoisses, ses erreurs. Et je crois que c'est très important pour nous de lire les erreurs des autres, d'une part pour relativiser par rapport aux nôtres, et puis d'autre part pour l'aspect plus pratique de se dire cette erreur-là a été commise, je viens de la lire, donc j'essaierai de ne pas la reproduire. Là, je me suis un peu replongé dans Romain Gary, et c'est un auteur typique des erreurs et des échecs et des regrets. Et je pense que c'est très important de prendre conscience des regrets des autres, parce que ça permet aussi d'identifier les nôtres. Et c'est pas pour autant que lire l'échec des autres va nous plonger dans un marasme à notre tour. Je crois qu'au contraire, c'est quelque chose qui est d'autant plus motivant et qui est d'autant plus important.
Rassurer.
C'est ça. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'être rassuré, motivé, coaché, dirigé. Et je crois que la littérature, elle a déjà ce rôle-là.
C'est très vrai ce que tu dis. J'y avais pas pensé. Et je pense que tu fais bien de le souligner.
Bah oui. J'y crois sincèrement. Ouais, quoi. Ouais. C'est très important.
Et on peut pas remplacer ça par séance de coaching. J'y crois pas.
Non, non, sincèrement pas. C'est impossible. Et puis après, oui, ce que vous avez dit justement juste avant sur le fait d'être en permanence sollicité. Ouais. Il y a toujours le téléphone qui vibre, qui sonne, ouais. Les notifications, les trucs. Et c'est important parfois de déconnecter tout ça et de s'isoler. Le prendre le temps d'être seul aussi, c'est incroyablement bénéfique.
Bien sûr.
Juste raturer quelques pages, ça implique pas grand-chose, mais c'est tellement créateur en fait. Mmh. Et ça va durer toute la vie. Il y a aussi ça qui joue, c'est que ça commence un peu par hasard parfois, mais ça peut durer ensuite une éternité, quoi. Romain Gary, tout ça, c'est des auteurs qui restent après, tout le temps.
C'est évident. Vous écrivez tous les deux ou pas? Ça vous arrive?
Moi, j'ai écrit, j'écris encore un peu. J'ai eu une période où j'écrivais beaucoup, je voulais publier des romans. Mmh. Bah, justement, ça me faisait penser par rapport à la question sur le monde de la littérature, tout ça, est-ce qu'il est accessible ou pas? Alors, moi, mon aventure d'écriture, elle m'a montré qu'il était difficilement accessible, puisque j'ai essayé deux fois, enfin, j'ai essayé une première fois de publier un texte, un roman, quand on était en prépa. Mmh. J'y suis parvenu, mais seulement, dans une petite maison d'édition un peu, très très ouverte, et puis en fait qui propose des tarifs, enfin voilà, c'est un peu c'était un peu flou. On va dire que sur les maisons traditionnelles, c'est très difficile d'accès, et ça se passe davantage par un contact que par
Mais tu veux dire que t'as eu des refus?
J'ai eu énormément de refus, j'ai eu même principalement des refus. Mmh. J'ai été accepté dans une maison d'édition, mais ça a pas duré très longtemps, c'est-à-dire qu'en fait j'ai voulu le retirer très vite parce que le texte me plaisait déjà plus, et parce que la manière dont ça se passait ne me plaisait pas non plus, c'est-à-dire que les modalités de diffusion du texte étaient payantes, enfin voilà. Mmh. Et c'est des choses où de toute façon j'étais absolument pas en mesure de le faire en prépa. Et puis en fait il y avait aussi, enfin là c'est pour le coup très individuel, mais le côté un peu plaisant de me dire que j'étais un écrivain raté. Et que donc, j'avais envie de passer plus de temps sur ceux qui avaient réussi que sur moi qui n'y arrivais pas.
À 21 ans.
Ouais, bah, c'était, c'est un âge où parfois les choses, elles sont quand même très vite définitives, ou en tout cas, elles le semblent.
Ah, tu penses?
Ah ouais. En tout cas, moi, je suis d'un naturel où tout semble très vite définitif. Ouais. En tout cas, dans l'échec, quoi.
Rien n'est vraiment définitif.
Donc, j'ai écrit plusieurs choses, mais j'attends de voir.
Okay.
On va dire que c'est plus l'enjeu principal aujourd'hui, mais ça reste évidemment très important.
Et toi, Louis?
Moi, j'écris beaucoup moins que Grégoire. J'écrivais à un moment, ouais, à un moment, j'écrivais beaucoup, notamment sur un personnage. J'avais même écrit un scénario que j'avais finalement pas envoyé pour, enfin, quelqu'un qui me le demandait. En réalité, j'ai eu ce défaut-là de n'écrire que.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ça n'allait pas, je pense qu'en fait, généralement, c'est comme ça. Pourquoi
ça vient en général comme ça.
Généralement,
hein.
C'est comme ça. Pourquoi écrire quand on est heureux et quand, voilà. Mais donc, j'écris beaucoup moins maintenant aussi parce que c'est triste, mais je me suis éloigné d'études littéraires, maintenant dans le journalisme, donc c'est une autre forme d'écriture, quoi. Donc c'est très difficile même de trouver du temps, et puis j'ai plus exactement le même besoin que j'ai pu avoir pendant 3 ans. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez des trucs, excusez-moi, je passe du coq à l'âne, mais les livres audio, ça vous parle ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Audible, les applications de... Aujourd'hui, il y a des, je pense principalement Audible, mais j'ai vu aussi que d'ailleurs dans la presse, j'ai vu ça, qu'ils allaient permettre d'avoir l'intégralité d'un journal en format podcast. C'est-à-dire que maintenant, tu vas pouvoir lire ton journal en version audio. Vous en pensez quoi de tout ça?
Pour l'instant, moi, j'y vois pas d'inconvénient. C'est vraiment, c'est sur une forme un peu différente, mais qui est aussi audio. Mais c'est ce que je disais par rapport à Trintignant, Denis Lavant qui lisent des textes. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, en tout cas, qui m'a toujours, qui m'a fasciné avec ces deux acteurs-là en particulier, puisque il y a quelque chose dans leur voix, dans leur timbre que j'adore. Et puis en fait, ça ouvre de nouvelles possibilités à la lecture. Alors ça a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que l'avantage c'est qu'on peut du coup faire autre chose entre guillemets pendant qu'on écoute le texte. Le désavantage direct à cette possibilité c'est que du coup on n'est pas concentré et c'est pas du coup une lecture consciente. C'est important je pense de varier les plaisirs. Moi par exemple quand j'apprends des textes pour le théâtre, je m'enregistre une première fois en le lisant, puis ensuite je me le passe en boucle pour l'apprendre, mais parce que c'est dans un processus d'apprentissage du texte. Je pense que je pense que ça reste quand même positif parce que c'est un autre moyen de diffusion de la littérature et donc on peut pas y voir de grands défauts. Après oui, c'est du coup un problème de simplement d'écoute réelle, d'être un peu bercé parfois, de s'endormir à la rigueur, mais c'est pas grave. Ça dépend simplement, je pense, de la qualité de la lecture aussi en fait, parce que sur les applications comme Audible et tout ça, on est sur des personnes, enfin sur des lecteurs parfois où c'est vrai que moi j'écoutais quelques extraits et ça me gênait un peu la voix ou l'intonation et toutes ces questions-là qui se posent aussi. Est-ce que on peut lire un roman correctement, c'est-à-dire une pièce de théâtre, on l'imagine très bien en audio. Il y avait beaucoup de pièces radiophoniques. En revanche, comment on fait pour lire un roman qui n'a pas vocation de base à être lu à voix haute?
Bien sûr. Donc, t'as raison. Oui, sur l'interprétation, c'est très important.
C'est très difficile. Moi, je me rends compte tous les jours quand j'essaie de lire un texte à voix haute, simplement en lecture. C'est parfois, enfin, il y a des non-sens parfois en fait à voix haute,
bien sûr,
dans l'intonation, tout ça, qui sont absolument fous. Donc, oui, c'est. On va dire que c'est quelque chose qui doit être fouillé quoi encore, je pense. Mais c'est positif. Après, par exemple, enfin sur les journaux lus en podcast, ça, je pense que c'est pas un souci du tout. Au contraire, parce qu'il y a pas du tout la valeur.
Bien sûr.
La valeur des mots est pas la même.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et toi, Louis, t'as un avis sur le sujet ou pas?
Non, moi, je suis complètement d'accord avec Grégoire. Ouais. C'est vrai que je pense qu'un livre audio n'est pas suffisant. Parce qu'effectivement, c'est très impersonnel, en fait. Ça dépend de la personne qui lit, qui va lire le texte. Si c'est Fabrice Lucchini, c'est pas la même chose que.
C'est clair.
Voilà.
C'est clair.
Mais, et puis, pour, concernant les journaux, ça, je pense que, effectivement, on évolue vers ça. Ça va très vite devenir incontournable. Et je pense qu'en réalité, c'est une bonne chose.
Ouais, bien sûr. Je voulais vous poser une question un peu plus vaste. Comment vous analysez votre génération? Moi, je suis très curieuse parce que j'ai peu de gens dans mon entourage de votre génération. Enfin, ils sont un tout petit peu plus vieux, les gens que je vois en école de commerce. Mais comment vous voyez votre génération? Enfin, là, on sort un peu de votre cadre littéraire, mais je suis intéressée par votre point de vue sur ce que vivent aujourd'hui les personnes qui ont votre âge en France. Vous avez un avis ou pas? Ou la question est trop vaste?
Non. Après, voilà, j'ai 21 ans, c'est difficile de dresser un portrait sociologique, mais je vais parler du coup de ce que je connais. Je pense que, enfin, je ne saurais pas dire si c'est différent des générations précédentes, mais c'est une génération qui, j'ai l'impression, a peur. Il y a une espèce de un peu désabusé aussi, qui est confronté à l'absurde très souvent. Et les réseaux sociaux ont joué, je pense, un gros rôle là-dedans. Et puis, plus généralement, voilà, l'hyper médiatisation de micro événements dramatiques, etc., participe au sentiment que de toute façon, ça va être le chaos et que donc bon,
catastrophisme.
Pourquoi vivre? Quel sens donner à ce qu'on fait? Et donc de ça, il y a une espèce de sentiment aussi d'injustice ressenti par cette génération qui en fait a beaucoup envie d'agir, qui a beaucoup envie de faire les choses et qui a beaucoup envie de s'ouvrir. Ça a pas du tout forcément un effet très négatif dans un premier temps, si évidemment. Mais du manque naît donc la création en fait. Et je pense que c'est un trait de caractère. Romain Gary, je crois, dit qu'il faut pas attendre de la vie qu'elle ait un sens, il faut lui en donner un. Et je pense que c'est ce que cherchent à faire beaucoup de jeunes aujourd'hui.
C'est beau.
Oui, je suis assez d'accord. Je crois qu'il y a une volonté, en tout cas, il y a une certitude dans notre génération, c'est que il y a un changement qui doit se produire à un tas de degrés, que ce soit politique, culturel, comme on essaie de le faire, générationnel, tout simplement, où, en fait, c'est vrai que l'importance, par exemple, des réseaux sociaux, aujourd'hui, elle est plus négligeable comme elle pouvait l'être encore il y a 3-4 ans. Tout va très vite aujourd'hui, à tel point que, du coup, on semble un peu parfois se perdre. Je crois qu'on est... Il y a beaucoup d'aspects négatifs aux réseaux sociaux et ça, personne ne peut vraiment le remettre en cause. Mais je pense qu'il y a aussi énormément d'aspects positifs, mais qu'on doit chercher et trouver. Et rien que la base de données que ça représente, Internet, c'est absolument monstrueux. Et en fait, on y trouve énormément de choses. En tout cas, je pense, pour se renseigner, puis ensuite avancer et entamer un processus dans la vraie vie. Je pense, par exemple, à la culture... tout ce qui est trouvable en termes de texte, des extraits de films, des films entiers, etc. Ça détruit une partie de l'industrie, mais en même temps, il faut pas négliger l'impact que ça peut avoir. Et je crois qu'on on est une génération qui pendant pas mal de temps a cherché en fait à ce qu'on lui donne un rôle et puis qui en fait petit à petit se rend compte que c'est à elle de se le trouver. C'est facile pour nous dans notre position parce qu'on commence à le trouver un peu notre rôle, donc on peut donner un peu l'impression d'être déjà établi et de se faciliter un peu la tâche en disant c'est à vous de trouver votre rôle, les petits jeunes qui ont 2-3 ans de moins que nous, mais même ça se voit, enfin il y a cette sensation parfois qu'on est un peu une génération sacrifiée quand on nous dit que c'est à nous de résoudre le réchauffement climatique, quand on voit un peu la starification d'adolescents, que ça soit dans le sport par exemple, l'impact que les sportifs aujourd'hui peuvent avoir sur la société, il est énorme. On l'a vu récemment avec la mort de Kobe Bryant, les conséquences de cet accident sont énormes. Ouais. Donc on voit les jeunes sportifs qui sont des porte-parole de leur génération, de leur sport, on voit les jeunes personnalités politiques, Greta Thunberg et compagnie, il y a une sorte de starification de la jeunesse et de... pas de starification, mais en tout cas, la jeunesse commence à avoir un impact de plus en plus...
Vous êtes adulte, parce que je trouve que justement, enfin moi, je sais pas, à 19 ans ou à 20 ans, j'étais encore un bébé et vous êtes adulte très tôt, quoi. Enfin moi, ça m'a toujours marqué de voir votre degré de maturité. Et je trouve ça assez à la fois magnifique et à la fois assez perturbant, en fait. Ouais. J'ai le sentiment que la jeunesse ou l'adolescence est vite coupée en chemin.
Oui, oui. Voilà. Oui, ça peut donner un peu cette sensation-là, mais simplement...
Bon, ça a des points de vue, ça a des côtés positifs comme négatifs, comme à chaque fois, mais on va s'attaquer à un monstre, parce que vous êtes tous les deux des grands amateurs de littérature, mais si vous deviez me donner quelques références littéraires, alors je sais qu'on va pas... Enfin, c'est compliqué la question, parce que vous êtes une bibliothèque ambulante à vous deux, mais si vous deviez me donner... Et c'est pas la question sur les coups de cœur et les coups de gueule, c'est pas celle-là, c'est vraiment... vos auteurs coup de cœur, demain on prend un café ensemble, vous me dites j'ai jamais lu de ma vie et vous me dites voilà par quoi il faut que tu commences, quoi. En gros, c'est à peu près ça la question. Je sais que c'est un peu compliqué, je suis désolée.
5-6,
c'est bien. Ouais. Enfin, autant que tu veux, ouais. Mais tu vois, parce que je me dis il faut bien commencer par quelque chose, quoi.
Il a été mentionné plusieurs fois auparavant, mais du coup Romain Gary, pour moi, qui est inévitable, qui a pris de plus en plus d'importance depuis 3 ans, quoi. Fait, c'est un peu il grimpe sans arrêt, on va dire, dans mon classement, si je dois en faire un. Romain Gary, pour moi, est devenu vraiment inévitable et c'est celui vers qui je me tourne quand j'en ai besoin. C'était pas le cas auparavant c'était Rimbaud vers qui j'allais quand j'étais surtout dans des périodes un peu chaotiques, où du coup c'était vers lui que j'allais tout de suite, ces deux-là sont pour moi inévitables. Après, il y a aussi Marguerite Yourcenar, pour un texte en particulier qui est Alexis ou le traité du vin combat, qui est un texte que j'ai découvert en prépa et qui m'a bien plu. Et qui, c'est aussi un texte, enfin moi j'ai un peu cette tendance là à jamais vraiment quitter les auteurs que je lis, à toujours revenir d'une manière ou d'une autre. Il y a Marina, comment,
c'est un peu une famille ou des références.
Oui, c'est ça, exactement, ouais. C'est en fait, je sais maintenant, je retrouve un peu les auteurs ou autrices que j'aime bien et puis en fait j'y retourne quand je sens que j'en ai besoin. Y en a une aussi, c'est Marina Tsvetaeva, une poète russe. Ça, c'est pareil, c'est, j'ai un problème avec les auteurs russes, enfin problème, une passion
un attrait,
pour ce qu'on appelle l'esprit slave, tout ça. Et particulièrement le 20e en Russie, moi, ça me fascine. Et le théâtre en ce moment, je travaille beaucoup sur le théâtre russe de cette époque-là, donc Nicolas Yerdman, Maxime Gorky, tout ça. C'est absolument passionnant, je sais pas comment expliquer. Là, j'ai découvert aussi une dramaturge russe qui est encore en vie, qui s'appelle Ludmila Ulitskaya. Et c'est incroyable, j'ai envie de travailler du coup sur une de ses pièces qui s'appelle Mon petit-fils Benjamin. Et je sais pas comment expliquer, c'est très simple, mais il y a une capacité à rendre compte de la petitesse des gens et de la grandeur de l'humanité. Tout ça en 50 pages, 60 pages, ces délires-là, moi, ça m'attaque pas mal. Après, il y a aussi un auteur qui est assez peu connu, qui est un très grand ami de Albert Camus, qui s'appelle Louis Guillou, qui était un peu plus âgé que lui, et récemment, les éditions Poche Folio ont publié les correspondances des deux de
Camus. J'en ai entendu parler, effectivement.
Il a un texte particulièrement reconnu, qui est Le sang noir. Et qui est absolument magnifique, qui parle de la Seconde Guerre mondiale, ou de la première, je sais plus, enfin qui parle de un peu de l'entre-deux-guerres même, mais qui est sur toute cette ambiance-là. Okay. Et donc Louis Guillou, que j'aime aussi énormément.
Ouais, on va s'arrêter là. Sinon, je pense qu'on peut continuer pendant 3 heures. Mais et toi, Louis?
Ça, j'ai une culture plus classique que Grégoire, qui connaît énormément de choses et beaucoup plus que moi la littérature du 20e et celle contemporaine. Moi, je donnerais Flaubert.
Ouais.
L'éducation sentimentale, évidemment. Je donnerais au-delà de la personne Céline. Avec Mort à crédit, qui est un roman qui m'a énormément marqué, et Voyage au bout de la nuit, qui m'a en fait donné envie de plonger dans l'univers littéraire. Pour des choses plus légères, et enfin bon, ça veut pas dire grand chose, mais Christian Bobin.
Ouais.
Autant pour ses romans que sa
L'homme
poésie.
L'homme joie, moi j'avais adoré.
Voilà.
Ouais.
Et c'est un auteur que j'adore. Annie Ernaux aussi. Qui dresse toute son œuvre un portrait sociologique, en fait. Il y a un livre qui s'appelle Les années, on avait dû l'étudier pour l'ENS en Cagne, qui retrace toutes les années depuis 1968, enfin depuis sa naissance, qui est exceptionnel. Et puis elle a écrit, on en met souvent sur le compte Diversification. Oui. Je.
Bon, tu.
Voilà. On en parlait tout à l'heure. Moi, on est tombé d'accord sur le fait que ses derniers romans étaient pas exceptionnels. C'est peu dire.
Michel Houellebecq.
Michel Houellebecq, et notamment parce que c'est moins connu pour sa poésie. Rester vivant, La poursuite du bonheur. Et puis, si je dois donner un roman, c'est pas celui que j'ai lu en premier, mais c'est Les Particules élémentaires, qui pour moi est son meilleur.
Ouais. En termes de aujourd'hui de projection, vous voyez comment dans, je sais pas, hein, vous êtes pas obligé de répondre parce qu'en même temps, moi j'ai jamais su répondre à cette question, mais je la pose quand même, on sait jamais. Comment vous voyez dans 5-10 ans? Vous voyez faire quoi?
J'ai eu la même question pour mes dossiers de concours de journalisme.
Désolée.
Tu m'y fais penser. non, à vrai dire, quand je regarde ce que j'étais il y a 5 ans, ça me paraît un peu absurde d'essayer de me projeter encore dans 5 ans parce que j'ai complètement changé. C'est l'âge aussi, je pense. À partir d'un certain âge, on change moins. Vers 20 ans, il y a des choses qui se figent, en tout cas dans le caractère, dans les intérêts, etc. Dans 5 ou 10 ans, en fait, le monde du journalisme offre beaucoup plus de perspectives maintenant qu'il n'en offrait avant. Il y a énormément de médias alternatifs qui se créent. C'est pour ça qu'on essaye d'en faire un dans le domaine de la culture. Donc dans 5-10 ans, j'aimerais pouvoir à la fois écrire sur des thèmes sociaux, politiques, et puis continuer l'entreprise culturelle qu'on essaie de lancer, quoi.
Toi, Grégoire?
Dans 5-10 ans,
mon espoir, en tout cas, enfin mon ambition, c'est de faire du cinéma et du théâtre.
Ouais. Tu vas y arriver sans aucun doute.
Bah j'espère, j'y travaille en tout cas. Donc j'espère que ça apportera ses fruits. Mais oui, l'idée, elle est là. Pour moi, c'est d'y arriver assez rapidement là, à la professionnalisation. Donc voilà, tout en. Enfin, j'ai pas envie.
Je le souhaite.
Que. Bah, merci. Mais que de jouer ou voilà, mais j'aimerais bien, ouais, pas. Parvenir du coup à écrire et à être lu aussi, ce serait assez chouette. Enfin ouais, j'ai en fait ouais, j'ai beaucoup de ça tourne autour de ça quoi, dire des choses, les jouer, etc.
Attends, mais je vous ai pas posé une question qui pourtant est intéressante, mais c'est votre point de vue sur le ciné aujourd'hui. Vous avez vu récemment des films. Alors Joker, on va en parler. Hein. Ouais. on sait qu'on a aimé Joker, mais vous avez vu récemment des films qui vous ont plu ou pas?
Alors moi, ça fait vraiment des lustres que j'ai pas été au cinéma.
Ouais, ouais.
Je me demande même si c'était pas pour Joker la fois que j'y étais, mais je me tiens quand même un peu informé de tout ce qui sort. Je vais, enfin, beaucoup en voir aussi en streaming parce que j'avoue que
ouais.
Parfois le porte-monnaie suit pas trop sur les dépenses cinéma. Mais j'ai eu beaucoup de très bons retours. Ouais, ouais. J'ai eu beaucoup de bons retours sur The Lighthouse avec Pattinson et Willem Dafoe. Il y a Les Misérables de Lajli qui a été apparemment un grand succès. Enfin, il y a beaucoup de films qu'il faut que je rattrape.
Okay.
Alors après, du coup, et sur le cinéma aujourd'hui, bah ça faisait partie de mon coup de cœur, mais du coup, je fais un petit préambule déjà. Il y a un jeune garçon de 18 ans qui habite à Toulon, qui s'appelle Enzo Martinez et qui a sorti là récemment un moyen métrage de 57 minutes,
okay.
Qui s'appelle Jusqu'au dernier souffle et que j'ai pas encore eu l'occasion de voir puisqu'il est en finalisation. Il a été diffusé là à Toulon. Et en fait, c'est un garçon qui sort un peu de nulle part, qui est au conservatoire de Toulon et qui s'est lui-même filmé avec ses proches, des amis du conservatoire.
Ça parle de quoi ?
J'ai aucune idée. Je crois que c'est
okay.
juste un film un peu plus ou moins autobiographique sur un jeune homme de 17-18 ans. C'est, il me semble, sur. Je sais pas si les problèmes qui sont dans le film, il les a connus réellement, mais c'est sur la perte de son père.
D'accord.
Enfin voilà, les événements d'un jeune adolescent.
Mmh.
Et en fait, je trouve, enfin, qu'aujourd'hui, le cinéma, c'est une des portes les plus ouvertes en termes d'ambition, en termes de possibilités, parce qu'aujourd'hui, ça peut sembler bête à dire, mais même un téléphone peut réaliser quelque chose de, de pas si médiocre que ça, en fait. Alors évidemment, c'est un certain coût, voilà, mais en tout cas, oui, il y a quand même beaucoup de possibilités. Mmh. Après, sur l'état des lieux du cinéma tel qu'il est, il y a quand même beaucoup de complications une fois qu'on arrive au milieu professionnel tel qu'il est.
Mmh.
Les gens qu'il constitue sont pas toujours irréprochables, même loin de là. Tous les jours, on découvre des nouveaux scandales absolument insupportables qui, en plus, dévient du coup le débat initial qui est intéressant, qui est qu'est-ce que c'est que le cinéma, comment on en fait, qu'est-ce qu'on peut apprécier. Toutes ces questions-là, en fait, on se les pose plus autant qu'avant. Puisque aujourd'hui, il faut savoir qui a fait quoi, quand, comment, avec qui. Et en fait, il y a tout ce milieu-là cherche à se conserver parce qu'ils ont tous fait des choses qui sont ils ont tous été plus ou moins des criminels à des moments de leur vie, à différents degrés. Donc, ils se conservent un peu tous. Donc, c'est en réalité plus difficile d'accès qu'il n'y paraît. En tout cas, sur la possibilité de créer, elle est plus que jamais ouverte. Sur la possibilité de faire quelque chose de ce qu'on crée, c'est là où ça se complique. Et bon, après, s'il faut parler des fréquentations des salles, c'est en baisse complète parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent rester chez eux et faire des films en streaming ou Netflix et compagnie. Ça, c'est un peu alarmant parce que du coup, l'état du cinéma, on va dire que ça évolue. C'est alarmant tel que c'est pour l'instant, mais l'évolution peut être positive. Simplement, c'est un peu flou quand même.
Et toi, Louis, t'as un avis sur la question ou pas?
Globalement, sur le cinéma, on le met hein, dans le manifeste. Il faut lutter à ce que ça ne devienne pas qu'un divertissement et que ça demeure un art au-delà de tout élitisme. Enfin voilà. Par exemple, Grégoire parle de Netflix, qui, je crois que sur l'année, il me semble que c'est 50 films produits par Netflix. C'est trois fois plus que Warner. C'est absolument incroyable. Je veux pas verser la posture classique qui consiste à dire que Netflix fait énormément de mal au cinéma. C'est quelque chose d'assez nouveau. Comme toute innovation, elle est très critiquée au début. Il y a des très bons films qui sont sortis et qui vont sortir. Alors sur Netflix, c'est plus en fait le principe même de la plateforme et par exemple des séries, etc. qui est dérangeant parce que ça, c'est, en fait, quand on va sur Netflix, c'est pas pour être tranquillement une heure et demie et regarder un très bon film. Mmh. C'est déjà quand on va sur Netflix, on sait pas exactement ce qu'on va regarder.
Eux, ils savent par contre ce qu'on va regarder.
On passe une demi-heure à trouver quelque chose. On est souvent un peu déçu, plus ou moins. Et en fait, ce que veut Netflix, c'est tenir les gens devant leur écran,
analyser nos données et faire en sorte de produire
4h du matin. Et en fait, le contenu même, importe peu. C'est du marketing. Et ça, c'est assez dérangeant parce que c'est ce qui est le plus prégnant en fait sur une plateforme. Il peut y avoir 2, 3, 10 bons films, ça change pas grand-chose au fond.
Alors maintenant, on va passer au coup de cœur et au coup de gueule. C'est ma question habituelle, mais est-ce que vous avez des coups de cœur récents ? On a beaucoup parlé de livres, mais après, ça peut être autre chose. Hein. Vous pouvez avoir eu un coup de cœur sur une pièce de théâtre, sur une rencontre, sur peu importe.
Non, j'en ai un. C'était il y a un ou deux mois. C'est les danseurs de l'Opéra de Paris qui ont fait des scènes publiques. Et je sais qu'il y a eu des concerts aussi à l'Opéra Bastille sur le Parvis. Ça, c'est un réel coup de cœur. Au-delà du contexte politique dans lequel ça s'inscrit, c'est une réelle volonté de démocratisation en fait. De donner un accès à la culture à qui veut. Et on a vu une foule absolument monstrueuse. Et c'est des gens qui parfois n'ont pas l'occasion, n'ont pas le droit de rentrer dans ces salles. Et donc j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est un retour à ce que devrait être un ballet.
T'as raison de souligner.
Oui, moi du coup le coup de cœur, je viens de le mentionner, mais du coup c'est... En tout cas, au-delà du film en lui-même que j'ai même pas vu, c'est la démarche moi qui m'avait plu.
Tu parles du
Enzo Martinez. Ouais. C'est cette démarche-là que je trouve absolument splendide parce que moi ces questions-là s'étaient posées pour moi aussi, mais j'avais jamais vraiment osé. J'osais pas aller louer le matériel. J'avais peur du coup que ça représentait. Mmh. Je me souviens que la question s'était posée avec un ami du conservatoire au moment où les gilets jaunes ont commencé. Et en fait, le week-end, un week-end où on voulait aller tourner sur les Champs. On avait prévu du coup d'aller louer le matériel et puis en fait moi je voulais absolument y aller pour filmer tout ce qui se passait, le feu, les colères, tout ce qui était cassé. Pour moi, il y avait quelque chose à filmer et puis le matériel, il y avait pas de risque puisque c'était nous qui le tenions, etc. Mon ami a refusé du coup parce que lui il avait peur qu'on doive payer la caution, le matériel, etc. Donc moi c'est quelque chose qui du coup m'est pas resté en travers de la gorge parce que j'ai très bien compris son angoisse par rapport à ça, mais du coup comme ça a été un peu un acte manqué entre guillemets, c'est devenu une sorte de petite fascination pour moi de me dire ah j'aimerais bien faire des films, j'aimerais bien jouer dedans, en faire, réaliser un peu caméra au point à la manière des cinéastes de Dogma qui ont fait des films caméra au point tout ça et du coup que lui le fasse comme ça, moi je trouve ça absolument, enfin il y a un fantasme en fait moi quand je vois ça qui se réalise pour moi aussi de me dire waouh c'est cool, quelqu'un qui est hyper ambitieux qui se donne les moyens de cette ambition là. Et donc ouais, ça c'était un gros coup de cœur. Après moi dans mes grosses, c'est presque une fierté aussi ces derniers temps, mais ça avait été le moment où Adèle Haenel a pris la parole, parce que en fait c'est tellement ça rejoint tellement ce qu'on espère voir en fait. On espère évidemment pas voir des victimes, on espère qu'il y en a le moins possible, mais le fait de voir quelqu'un prendre la parole et dénoncer ce qui s'est passé. Il y a quelque chose de très réconfortant et puis on se dit que les choses elles vont dans le bon sens et ça, enfin c'est un soutien incommensurable de notre part parce que c'est quelque chose qui arrive petit à petit et ça fait énormément de bien en fait de voir ça.
D'accord.
De voir les gens qui libèrent cette parole là. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ça n'enlève rien à la carrière qu'elle a et qu'en plus c'est une actrice géniale que j'avais adorée dans Le Dain de Quentin Dupieux. Enfin, elle est géniale dans Portrait d'une jeune fille en feu. Elle est géniale aussi. Enfin, et donc ça fait d'autant plus plaisir qu'on peut. Enfin, il existe encore du talent, il existe encore de l'intelligence et du courage, quoi. Et c'est de ça dont on a besoin. Donc,
je suis bien d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et est-ce qu'on peut passer au coup de gueule, potentiellement, si vous en avez ?
Le coup de gueule, du coup, pour moi, il est à l'opposé du coup de cœur de Adèle Haenel, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour des affaires là qui ont impliqué Polanski et Maznev. Je vais mettre les deux ensemble et j'ai pas envie trop de m'y attarder, mais simplement ce qu'il y a de reprochable là-dedans, c'est tout ce traitement médiatique où les gens s'écharpent, défendent l'un ou l'autre. Il y a là récemment, du coup, avec les nominations de Polanski, du coup, le débat s'est relancé. Est-ce que c'est le film qu'on récompense? Mais est-ce que c'est pas dégueulasse de récompenser un film fait par quelqu'un qui aurait même pas dû pouvoir le faire, qui aurait dû être en prison depuis des années? En fait, c'est plus un dégoût pour moi et un coup de gueule que ça soit, on en soit encore là. Je veux dire, après tous les témoignages qu'on peut lire, entendre, tout ce qu'on sait de la situation du cinéma français qui est parfois, qui est quand même relativement sale, c'est en fait un peu insupportable de retomber toujours dans ces discussions-là. Oui, mais il faut séparer l'auteur de l'œuvre, on se fout de cette question-là. En fait, une fois qu'on l'a énoncé, cette question, qu'on y a répondu, on tombe tous plus ou moins d'accord que oui, c'est intelligent et c'est plus sain d'esprit de séparer ce que fait l'auteur de ce qu'il est, de ce qu'il a fait dans la vraie vie. C'est-à-dire son œuvre est indépendante de ce qu'il est. Seulement, on parle d'un criminel dans les deux cas. Et donc, il y a un moment où les artistes n'échappent pas à leur crime. Et donc, la peine doit être... la justice doit être rendue. Donc moi, en fait, ça me fatigue un petit peu. Parce que du coup, ça mobilise le débat sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Mmh. Et qui semble évident. Donc voilà. Moi, je préfère parler du contenu des films plutôt que du contexte autour.
J'ai un autre coup de gueule, mais je me joins quand même à ce que vient de dire Grégoire. Et effectivement, avec Polanski, on a vu en fait un déplacement de la véritable question. On a demandé si on devait distinguer l'œuvre et l'auteur, mais c'est pas la question. Je veux dire, avec Polanski, personne n'a dit que le pianiste était nul parce que Polanski était un pédophile. Là, il s'agit juste de savoir si un criminel, parce que il est prétendument génial, peut continuer de faire des films en toute impunité. C'est ça la question. Moi, la réponse, elle est évidente, non. On a entendu des arguments comme ça. Oui, mais imaginez, s'il est en prison, il aurait pu faire un film génial, mais on va pas discuter d'une réalité qui n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Et puis, enfin, bon, par ailleurs, voilà. Pour mon coup de gueule, on en a parlé tout à l'heure. J'ai été dur avec les maisons d'édition. Je veux nuancer quand même parce que les maisons d'édition permettent de publier énormément de petits auteurs, même s'ils sont invisibilisés. Et donc mon coup de gueule, il est plus sur cette invisibilisation là. Et ça, c'est les médias. C'est pas les maisons d'édition. Les maisons d'édition coopèrent avec les médias, mais en fait, c'est complètement imposé. Donc, qu'est-ce que mettent les médias en avant comme littérature?
Quel travail ils font de recherche, surtout, enfin, pour, indépendamment absolument. De ce qu'on leur dit.
Quelle est la compétence de ces gens qui parlent de livres à longueur de journée, mais qui n'ont, pour certains, pas
le. Ça va avec les fake news et avec le relais de choses qu'on vérifie pas. Enfin, c'est le même travail intellectuel. Enfin, je pense le fait d'aller chercher une information, de faire un travail journalistique, c'est pas relayer ce qu'un communiqué de presse te demande de relayer.
Exactement, ça vient de gens qui ne sont pas du tout impliqués en fait dans ce qu'ils font et ça, à mon sens, c'est complètement dramatique. Et surtout, je le redis, sur à la limite que les chaînes privées n'en aient rien à faire, c'est une chose, mais que le service public ne discute jamais de ces sujets-là et quand c'est le cas, c'est avec des figures complètement caricaturales ou alors à des heures impossibles dans la nuit avec quelques émissions, je trouve ça très limite.
En fait, pour poursuivre un petit peu là ce qu'on vient de dire tous les deux sur nos coups de gueule, Lou et moi, on cherche pas en tant que diversification à parler politique ou voilà, pour nous ces enjeux-là, ça dépasse justement le cadre de la politique pure et dure comme on peut l'entendre, c'est-à-dire on cherche pas à faire les social justice warriors, à dire qu'il faut emprisonner tous ceux qui sont condamnables et tout. Évidemment qu'il faut l'être, c'est simplement on essaie de faire preuve de bon sens et l'enjeu pour nous, on aimerait bien ne même pas avoir à parler de ça en fait et simplement nous focaliser sur la mélancolie de Romain Gary. Simplement, il y a aussi parfois des choses un peu pressantes dans la société dont il faut parler et nous, notre enjeu, il est pas de là non plus, il est pas d'orienter vers ce que nous on croit durement. Il est simplement de dire, d'essayer d'argumenter au maximum. On a eu pas mal de discussions justement avec des gens qui nous suivent sur ces questions-là. J'avais par exemple une question. Enfin, il y a toujours toujours des personnes qui vont reprendre un petit peu les propos qu'on tient en essayant de s'y opposer. Et nous, on cherche absolument pas. Enfin, on aimerait bien éviter ce débat-là justement, mais ça nous semble parfois important de bah de spécifier que oui, Polanski fait des très bons films, il en a fait en tout cas des très bons, mais il doit y avoir autre chose que juste le féliciter et le nominer pour des récompenses. Et je veux dire, moi, un de mes films préférés, c'est un des siens, je veux dire, Lune de Fiel, j'avais trouvé ça absolument splendide. Ça n'empêche pas que... Voilà quoi. Après non, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Je sais pas... si on doit utiliser ce podcast comme petit marqueur de... et qu'on le réécoutera dans un an ou deux ans, et ben on espère que dans un an ou deux ans, on sera encore à un nouveau niveau. Quoi, et que les choses auront évolué. Quoi. Donc, voilà.
J'ai bon espoir pour vous, parce que vous avez beaucoup de talent, et le podcast en témoigne. Bah, merci à tous les deux. Vraiment, merci du fond du cœur, c'était super.
Merci.
Désolée pour la technique, il n'y avait qu'un seul micro. Donc...
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.